Bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance de cette série de cours crise intellectuelle, morale et politique à gauche, et en fait la dernière séance de l'année pour l'Université populaire de Lyon. Donc merci pour ceux qui sont venus courageux avec la chaleur pour cette dernière séance. Donc jusqu'à présent, j'ai envisagé cette fameuse notion de crise qui a tant orienté l'année pour l'Université populaire comme une sorte d'état de brouillage des repères à gauche. Ce brouillage a été, disons, envisagé sous trois angles lors des deux premières séances. D'abord, lors de la première séance sur le plan des valeurs, ce qu'on appelle des morales, et associer des conceptions de l'humain, ce qu'on appelle des anthropologies philosophiques. Puis, la séance de la semaine dernière, j'avais envisagé la question des conceptions implicites de l'histoire, à gauche, avec des pistes alternatives autour de Walter Benjamin et Daniel Ben Saïd. Donc, aujourd'hui, j'aurai une séance plus directement politique, au sens des organisations politiques. Hein. Beaucoup de choses sont politiques, mais au sens des organisations politiques. Donc, je l'ai intitulé « La gauche est-elle en état de mort cérébrale » du titre d'un livre que j'ai publié en octobre 2012. Tout ça, évidemment, j'y reviendrai sur la conclusion générale à voir avec ce que j'appelle la réinterrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation, c'est-à-dire se poser la question de la formulation même des problèmes et des questions alors que on a tendance plutôt à se lancer sur les réponses en général aujourd'hui. Alors, comment d'abord introduire cette séance plus directement politique? Je fais le constat, disons, polémique qu'il existe des tendances désintellectualisatrices importantes à l'œuvre dans les gauches aujourd'hui. Et ces tendances désintellectualisatrices à gauche introduiraient une rupture fondamentale dans l'histoire moderne de la notion de gauche, qui, tout particulièrement en France, a depuis ses origines été associé à une activité intellectuelle. Songeons le moment où apparaît même l'expression gauche au moment de la Révolution française, où lors des Lumières, l'activité politique et l'activité intellectuelle sont associées. Songeons aux grands courants politico-intellectuels qui ont marqué la gauche, républicanisme, socialisme, anarchisme, syndicalisme révolutionnaire, marxisme, féminisme, anticolonialisme. On a dans ces différents éléments connu une association entre, disons, une activité intellectuelle et une activité politique au XIXe et au XXe siècle. Une focalisation toute particulière sur l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe, puisque c'est au cours de l'affaire Dreyfus que émerge la catégorie en France les intellectuels. Et le mot les intellectuels, qui était d'abord une expression utilisé par les anti-Dreyfusards pour stigmatiser les Dreyfusards, associer justement un travail intellectuel ou artistique avec un engagement progressiste dans la cité. Et puis on a plus près de nous toute une série de figures intellectuelles engagées, de Jean-Paul Sartre à Simone de Beauvoir, à Michel Foucault et Pierre Bourdieu plus récemment. Donc il y a, tout particulièrement en France, une association forte entre l'idée de gauche et l'idée d'activité intellectuelle. Or, les tendances désintellectualisatrices de la gauche aujourd'hui pourraient, disons, casser ce lien historique, qui n'est pas un lien nécessaire, et donc qui pourrait ne plus exister, ou presque plus exister. Alors, ce paradoxe ne signifie pas qu'il n'y ait plus d'idées à gauche. Il y a même beaucoup de ce qu'on appelle idées à gauche, mais souvent dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de fatras non réfléchi, des idées empilées les unes sur les autres sous forme de routine, d'habitude, d'automatisme, d'évidence, de mode, etc., qui se succèdent plus ou moins ou qui s'empilent plus ou moins. Ce qu'on pourrait appeler les articulations intellectuelles de la gauche et des gauches seraient gonflées d'arthrite. Ce qui tendrait en fait à s'effilocher à gauche, ce n'est pas tant le lien avec des idées en général, qu'avec deux choses qui ont manifesté ce lien historique entre la gauche et les idées. Un, le travail intellectuel. C'est-à-dire que les idées, le travail intellectuel, c'est pas exactement la même chose, c'est pas nécessairement lié. Le travail intellectuel, ça met justement au travail les idées assoupies. Deuxièmement, ce qui est en train de se perdre ou s'effilocher, c'est le lien avec les pensées critiques. Quelle est la particularité des pensées critiques? Au moins depuis les Lumières du XVIIIe siècle, et bien les pensées critiques, ça débusque des préjugés, ça met en distance des stéréotypes, ça interroge des évidences, ça questionne des automatismes, justement. Et donc, on pourrait dire que, non pas les idées en général, mais travail intellectuel et pensée critique seraient de plus en plus marginalisés à gauche. Alors, il y a aussi, c'est une objection qu'on peut faire des chercheurs et des collectifs intellectuels qui se réclament de la gauche et qui travaillent, qui pensent aujourd'hui de manière critique. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les zones d'intersection et d'interaction entre les organisations politiques, les mouvements sociaux, les intellectuels professionnels, les milieux artistiques et les citoyens ordinaires dans l'élaboration des idées de gauche. C'est cette zone d'interaction et d'intersection entre des militants, des intellectuels, des artistes, des citoyens. C'est des telles zones de dialogue et de confrontation qui sont de plus en plus anémiées aujourd'hui et qui pourraient tendre à disparaître et qui, disons, amènerait à faire ce constat d'une désintellectualisation à gauche. Alors, pour présenter un peu cette analyse, j'aurai deux moments principaux aujourd'hui, de grande partie. D'abord, je vais faire des constats généraux sur les désintellectualisations des gauches. C'est des constats qui sont faits dans mon livre « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?» Et autrement, le deuxième temps, ça sera des compléments autobiographiques, puisqu'il se trouve que, en fait, je suis passé par beaucoup des organisations de gauche, depuis 40 ans, successivement, et ces différentes expériences militantes me permettent de cerner une série d'enjeux politico-intellectuels. C'est des choses que j'ai présentées il y a quelques semaines à Montréal, la première fois, qui ont été reprises dans un texte mis en ligne sur mon blog de Mediapart. Et puis je proposerai une piste face aux défaillances politico-intellectuelles des gauches la conclusion de ces trois séances. Donc je vais bien me concentrer à un morceau cérébral sur le rapport entre les gauches et le travail intellectuel, ce qui n'est qu'un morceau, malheureusement, des défaillances actuelles de la gauche, et peut-être c'est un morceau secondaire, mais c'est le morceau sur lequel j'ai le plus de compétences que les autres morceaux. Parce qu'il y a bien d'autres problèmes que sa mort cérébrale pour la gauche aujourd'hui. Alors, premier élément des constats généraux, l'idée de désintellectualisation à gauche, au pluriel. Comme il y a des gauches, il y a des désintellectualisations à gauche, avec parfois des éléments transversaux. Alors, ce que j'ai déjà appelé ici la gauche électoralement dominante, ce que j'appelle la gauche hollandaise, et ses alliés gouvernementaux, dont Europe Écologie Les Verts, deux des sources principales de désintellectualisation sont connues depuis longtemps. C'est le double poids de la technocratie et de la professionnalisation politique. Alors, d'abord, la technocratisation, qu'est-ce que ça signifie au niveau intellectuel? C'est le découpage de la réalité et des problèmes en petites cases, en rondelles techniques, sur lesquelles se penchent les experts, qui vont donner un avis sur cette case. Avec ce type de découpage de la réalité et des problèmes, on perd la vue globale, distanciée, rendue pensible justement par les pensées critiques. Et on désamorce même le potentiel d'intelligence, d'intelligibilité qui est contenu dans les relations entre les différentes cases, puisqu'on n'examine qu'une case, à travers la segmentation technique, comme on dit. Et le fait de se situer dans une case technique prédéfinie, qui semble aller de soi, l'Europe, l'emploi, la compétitivité, le social, l'écologie, etc., tend à rendre difficile la prise de distance vis-à-vis de telle ou telle case. On peut ni réinterroger la définition du problème sur lequel on planche, ni prendre appui sur une approche, disons, du cadre social général au sein duquel la case est insérée. On pourrait dire qu'on se penche sur un petit bout des tuyauteries de la machinerie sociale, sans avoir de vue d'ensemble de ces machineries, ni des logiques structurelles qui les contraignent. Et peu à peu, c'est comme ça qu'on pourrait définir la technocratisation, une intelligence perroquée, bornée, répétitive, domine les élites de la gauche institutionnalisée. Premier élément de désintellectualisation. Deuxième élément, c'est la professionnalisation politique, le fait que de plus en plus la politique est mise en œuvre par des professionnels dont c'est le métier, a des effets atrophiants supplémentaires sur la gauche et particulièrement sur la gauche hollandaise. C'est-à-dire que dans cette logique, les idées se réduisent de plus en plus à des ressources dans une logique de carrière. Au plus, on va chercher quelques intellectuels patentés pour les poser sur des tréteaux électoraux au moment des élections, ou pour utiliser leur nom au bas d'appels à signer pour au moment de ces élections. Mais de moins en moins d'ailleurs, c'est-à-dire autant si les signatures intellectuelles étaient plus recherchées il y a encore 15-20 ans, de plus en plus les vedettes du showbiz apparaissent davantage, disons, rentables électoralement que les intellectuels aux signatures des appels à voter. Bon. Et donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le travail intellectuel qui demande du temps, des concepts, des abstractions, etc., le travail intellectuel devient un handicap dans une carrière politique et dans les compétitions électorales, une sorte de lourdeur de poids dont il faut se débarrasser. Alors, ces deux logiques, technocratisation et professionnalisation politique, ne sont pas nouvelles. C'est un mouvement structurel des sociétés modernes. Elles se sont approfondies aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai connu le Parti Socialiste dans les années 70 et la professionnalisation était nettement moins forte et de la technocratisation était moins forte qu'aujourd'hui. Mais elle se rencontre dans une conjoncture particulière qui en accentue les effets. Donc c'est la rencontre entre ces deux logiques structurelles et une conjoncture particulière qui rend ces effets particulièrement désintellectualisateurs. Puisque, disons, du point de vue des rapports entre la gauche et le travail intellectuel, cette conjoncture apparaît marquée au moins par deux dimensions. Première dimension, c'est les outils de globalisation de la gauche. C'est-à-dire que, en fait, les gauches, et notamment les gauches gouvernementales, ont perdu leur outil principal de globalisation, qui était, disons, encore, dans les années 1970, le marxisme, y compris au Parti Socialiste, où c'était la référence dominante. Donc il y avait un outil de globalisation à gauche, de distanciation, de point d'appui général à gauche. Cette référence a fortement reculé à partir du début des années 80 et s'est accélérée avec la chute du mur de Berlin en 1989. Or, d'autres repères globalisants n'ont pas pris la place du marxisme. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que je ne regrette pas que le marxisme ait perdu sa place en tant que référence intellectuelle dominante à gauche, puisque les références critiques émancipatrices sont beaucoup plus larges que le marxisme. Mais ce que je regrette, c'est que, en fait, le marxisme n'ait pas été remplacé par d'autres cadres globalisants, repères globalisants, plus pluralistes. Et alors, dans cette logique-là, le découpage technocratique et la logique de l'immédiateté, sans point d'appui sur un cadre globalisant, va peu à peu pousser la gauche hollandaise à une insertion dans le cours néolibéral du capitalisme. Ça s'est fait d'ailleurs en France en pratique, hein, parmi les premiers. Ça a été théorisé après en Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle le social-libéralisme, qu'il soit revendiqué ou pas revendiqué. Mais vous voyez bien que technocratisation et professionnalisation, disons, ont un effet tout particulier de désintellectualisation au moment où il n'y a plus de repères globalisants, où les repères globalisants se sont effrités. Deuxième élément qui accélère et rend difficile les effets de la technocratisation et de la professionnalisation plus que dans les années 1970, c'est l'importance de ce que j'ai appelé, en suivant François Hartog la semaine dernière, le présentisme. Donc cette idée de l'historien François Hartog qu'il y a une modification dans les sociétés contemporaines du rapport au temps, et avec l'idée que dans des secteurs grandissants de nos sociétés, le repère principal serait un présent déconnecté à la fois du passé et du futur, dans une logique d'immédiateté sans arrêt recommencée, bien, disons, exprimée par les médias, mais dont les médias ne sont qu'un élément. Et les gauches, souvent dépourvues de repères globalisants, sont d'autant plus happées par ce mouvement continu de l'immédiateté. Donc on voit qu'avec la perte d'outils de globalisation et la place prise par le présentisme et l'immédiateté dans l'espace public, la technocratisation et la professionnalisation politique, disons, ont des effets, disons, aggravants du point de vue du rapport au travail intellectuel et aux pensées critiques. Donc, rencontre de deux logiques structurelles et d'éléments d'une conjoncture particulière. Alors, la gauche hollandaise n'est pas la seule à avoir des problèmes avec le travail intellectuel. Les gauches de la gauche portent souvent plus haut l'ambition intellectuelle, mais elles sont aussi touchées, même si c'est à un degré moindre, par des formes de désintellectualisation. Donc ici, mon propos aura plus une tonalité autocritique, puisque depuis pas mal d'années, je participe à ces gauches de gauche. Mais il me semble que c'est un élément important d'une lecture libertaire du meilleur de l'héritage des Lumières du XVIIIe siècle, c'est toujours d'essayer d'associer le penser par soi-même et le penser contre soi-même, c'est-à-dire la critique des préjugés aussi liés à ses propres appartenances. Alors, premièrement, dans ces gauches de la gauche, on note un danger aussi de technocratisation beaucoup plus subreptice et moins visible qu'en dans la gauche officielle. C'est-à-dire qu'on a connu dans la renaissance de mouvements sociaux dans le sillage des grandes grèves de 1995 en France, avec un retour plus fort de la critique sociale dans l'espace public par rapport aux années 1980. Et ça s'est accompagné d'un accroissement fort et assez utile des capacités de contre-expertise dans les mouvements sociaux par rapport aux expertises officielles. Alors c'est le travail important effectué, remarquable, effectué par le Conseil scientifique d'attaque, hein, dont je suis membre, par la Fondation Copernic, ou plus récemment par les interventions des économistes atterrés. Là, on a une importance prise par ce qu'on appelle la contre-expertise, qui est une réponse aux expertises officielles. Mais là, il y a aussi un risque moins visible, c'est que peu à peu, cette contre-expertise occupe de manière trop hégémonique tout l'espace intellectuel à gauche, en réduisant peu à peu à la portion congrue, voire à rien du tout, la place jadis occupée par les pensées critiques globalisantes. Donc il ne faudrait pas que ce rôle de la contre-expertise, qui peut être utile, devienne le simple envers de la pensée technocratique, avec ses petites cases séparées, ses bouts de tuyauterie, que ne questionneraient plus les machineries qui contraignent nos vies. On perdrait ce point de vue des points d'appui globaux. La désintellectualisation à gauche de la gauche, j'en ai déjà parlé lors de la première séance, c'est aussi une certaine routinisation de schémas critiques simplificateurs. Alors, la résistance a été utile face aux lieux communs néolibéraux. Cette résistance a été amorcée en France en 1983, autour du tournant de la rigueur de la politique mitterrandienne. Ça fait 30 ans. Donc ça fait un certain temps. Et aujourd'hui, on trouve sans doute les routines, la paresse intellectuelle aidant, la stabilisation à gauche de la gauche d'une sorte de nouvelle doxa critique simpliste, ce que j'appelle de manière provocatrice la pensée monde diplo. Alors, cette pensée monde diplo, elle affecte pas simplement le mensuel, le monde diplomatique, mais de nombreux secteurs critiques à gauche, à la gauche du PS, au sein du front de gauche, dans l'extrême gauche. Sans doute, Jean-Luc Mélenchon fait un travail assez remarquable en ce moment pour incarner superbement ce manichéisme nouveau, dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il fait plus fort, beaucoup plus fort qu'il n'a fait pendant la campagne présidentielle. Là, ses dernières déclarations sur l'Allemagne et sur la tristesse d'être allemand sont extrêmement exceptionnelles dans la non-intelligence de la gauche de gauche et du manichéisme. Bon. Alors, trois axes stéréotypés, dont j'en avais abordé certains lors de la première séance pour les déconstruire un peu plus systématiquement, constituent cette nouvelle doxa critique, et une quatrième, un peu plus hésitante et ambivalente, est en train de monter. On pourrait dire que la pensée monde diplo, donc la doxa critique de ces gauches de gauche, ça tourne autour de quatre. Trois axes plus un montant. Un, le bon état face au méchant marché, premier axe. Deux, c'est la faute aux médias, deuxième axe. Trois, haro sur l'individualisme. L'individualisme, c'est mal, il faut le collectif. Quatre, la nation protectrice face au monde menaçant. Voilà. Et alors avec ça, on a fait le tour d'une grande partie de la non-pensée des gauches de gauche, assez largement. Bon. C'est en forçant de manière un peu polémique un type de mise en scène du combat des méchants, comme le marché et l'individualisme, contre les bons, l'État et le collectif, le tout étant orchestré par les méchants médias qui mettent dans la tête des gens les mauvaises idées, qu'heureusement de la gauche critique vont essayer de s'extirper de la tête des gens avec leur lumière. Hein. Bon. Et vont sortir tous ces gens aliénés par les méchants médias de la caverne pour les faire advenir à la lumière et à l'émancipation. Grâce à des gens comme nous qui sont si intelligents encore alors que tous les autres sont si aliénés et si bêtes. Bon. Voilà la pensée critique de gauche. Bon. De gauche. Alors, cette nouvelle doxa critique tend à refermer assez vite le travail de l'interrogation et la possibilité de formulation de problèmes plus compliqués, c'est-à-dire comment penser autrement les relations entre l'individuel et le collectif, plutôt que de choisir le collectif contre l'individuel. Comment prendre en compte les compétences aussi et les capacités des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs des médias, plutôt de les prendre comme une masse complètement abrutie et aliénée. Comment critiquer aussi pas simplement le marché, mais les logiques de domination à l'œuvre dans les institutions étatiques. Bon. Donc, c'est évidemment, ces formes simplistes empêchent de penser toutes ces questions en les construisant de manière un peu plus compliquée. Par ailleurs, l'ensemble, c'est ça qui caractérise un peu, peut-être, c'est ça qui caractérise peut-être le plus le fait que j'ai utilisé le monde diplo comme élément de cette, disons, doxa, parce qu'elle est présente beaucoup ailleurs, mais elle est souvent saupoudrée d'une certaine forme de déploration généralisée, hein, qui, en général, est peu propice à la créativité sociale et intellectuelle. Alors, je ne vais pas terminer ce tour d'horizon sans parler de la galaxie LCR-NPA dont j'étais encore récemment membre et de la galaxie des organisations anarchistes que j'ai rejoint récemment. La LCR a dans son histoire représenté un marxisme ouvert au travail, on pourrait dire. Le philosophe Daniel Ben Saïd a bien incarné cette tendance. Mais après sa mort en janvier 2010, l'activité déployé autour de Ben Saïd pour réfléchir sur certains impensés du marxisme et pour dialoguer avec d'autres théories critiques contemporaines, a tendu à être abandonné et le nouveau parti anticapitaliste qui a succédé à la LCR s'est de plus en plus désintéressé de l'activité théorique et aujourd'hui a largement régressé sur ce plan vis-à-vis de la LCR. Bon. Quant à la galaxie anarchiste que je connais moins directement, ce que je peux en dire pour l'instant, c'est qu'il y a il y a ici et là des réflexions qui visent à une réactualisation de la pensée anarchiste, mais c'est assez rare que ce soit des membres d'organisations. C'est quand même le cas, il y a quelques cas comme Irène Pereira dans l'organisation Alternative Libertaire, ou ici à Lyon, Philippe Pelletier à la Fédération Anarchiste. Mais le plus souvent, cette réactualisation de la pensée anarchiste se pratique hors des organisations comme notre ami Daniel Colson, la revue Réfraction, Michel Onfray, etc. Il y a une série de choses qui sont. Et il y a même une tentation dans les milieux anarchistes les plus organisés à se mettre, disons, à l'ombre des grands anciens, Proudhon, Bakounine, Kropotkine, etc., dans une logique principalement identitaire, sans effectuer le travail d'intellectualisation, d'actualisation intellectuelle, en fonction des enjeux contemporains. Voilà pour ce portrait un peu polémique, mais peu réjouissant, de l'état intellectuel des gauches, hein, les gauches gouvernementales et les gauches de gauche. Alors, dans un deuxième temps, je vais donner quelques compléments un peu autobiographiques sur les enjeux politico-intellectuels du moment. À partir de mon expérience, alors je vais compléter le tableau par un retour autobiographique sur mes expériences militantes successives, en essayant à chaque fois d'en tirer quelques éléments quant aux enjeux politico-intellectuels du moment. Ce sera un peu schématique. Alors, mon première expérience, hein, c'est 17 ans de militantisme quand même, 1976-1992, mon insertion dans le Parti Socialiste et au sein du Parti Socialiste dans un courant qui s'appelait le CRS. Il s'agissait à cette époque où j'étais lycéen, dans le post-68, de tenter un chemin qui était plutôt, me semblait plus pragmatique que celui de mes nombreux amis gauchistes, c'est-à-dire c'était cette idée de constituer un pôle révolutionnaire dans un parti social-démocrate de masse. Et c'était le cas de la visée du CRS à l'époque, transformée après en socialisme et république en 1986, qui était à l'époque un courant marxisant et autogestionnaire, animé notamment par Jean-Pierre Chevènement, et pas seulement, et un Chevènement bien avant le républicanisme et le nationalisme. Alors, qu'est-ce que je peux retirer principalement de cette expérience qui peut être utile aujourd'hui pour la gauche? J'y ai acquis quelque chose qui m'est resté, qui est une orientation pragmatique en rupture avec ce qu'on appelle le gauchisme. Donc, la nécessité d'une rupture avec le gauchisme. Qu'est-ce que j'entends par gauchisme? Parce qu'il y a différents sens de ce mot gauchisme. Le gauchisme, pour moi, et la façon dont j'ai pris du recul par rapport au gauchisme à partir de cette époque, c'est une posture justement principalement identitaire, qui affiche une identité personnelle en s'accrochant à une identité collective et en se souciant peu des effets sur la réalité. Bref, on exhibe avant tout sa rebellitude et sa pureté face aux traîtres, les autres. Premier élément, quelque chose que je n'ai pas tout à fait, disons, abandonné. Deuxième élément, je me suis aperçu, autour de ces 17 ans de militantisme, qu'il y a souvent un faux pragmatisme dans les grandes organisations politiques comme le PS ou aujourd'hui le Front de Gauche. Qu'est-ce que j'appelle un faux pragmatisme? C'est un pragmatisme essentiellement rhétorique et identitaire. C'est-à-dire, on se contente d'affirmer quand on est plus pragmatique, quand on met les mains dans le cambouis par rapport à ces forces plus marginales, à la gauche, hein, les autres, mais sans le prouver. C'est-à-dire, en quoi l'action politique institutionnalisée et fortement professionnalisée et inscrite dans les appareils du PS et du Front de Gauche a-t-elle des effets émancipateurs significatifs sur le plan individuel et collectif? On ne le sait jamais, c'est simplement postulé sur le mode de l'évidence. Donc, un petit élément qui peut faire réfléchir, comme quoi ça ne va pas de soi, hein, c'est que, en fait, si on voit les rapports entre les revenus du capital et le revenu du travail, la meilleure période en France, c'est 1980-1981, c'est Giscard, pour les salariés, bon, pour les revenus du travail. Ça commence à chuter à partir de 82 avec la gauche. Bon, ça va perdre au cours des années 10 points qui n'ont jamais été rattrapés dans les répartitions des revenus. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que Giscard était plus à gauche que Mitterrand? Non, pas tout à fait, mais que peut-être qu'un fort niveau de lutte sociale dans la période post-68 a eu des effets sur la répartition des revenus du travail et du capital, et que le fait d'être au pouvoir, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis, dans la machine institutionnelle, n'a pas eu tellement d'effet, puisque lui-même l'a fait régresser les revenus des salariés. Bon. Et donc cette idée que nécessairement mettre le main dans le cambouis des institutions a des effets positifs, émancipateurs, individuels et collectifs ne va pas de soi, ça doit être prouvé au cas par cas. Et donc il y a souvent, dans la gauche de gauche, quelque chose qui, d'une certaine façon, ressemble aussi au gauchisme, qui est le fait de postuler un pragmatisme, alors que le pragmatisme, en fait, il doit être prouvé. C'est de prouver le fait que ce qu'on a fait a des effets positifs sur la réalité individuelle et collective. Troisième élément, on peut dire qu'il y a quelque chose qui était de l'impensé à l'époque, c'est le développement de la professionnalisation politique et les logiques technocratiques aussi qui travaillent les institutions étatiques. C'est un des grands impensés de mon expérience à la gauche de la social-démocratie à l'époque. Pourquoi? Parce que nous pensions, dans des termes marxistes de l'époque, la critique du capitalisme, les rapports de classe, les logiques impérialistes au niveau international, mais nous ne pensions pas les rapports de pouvoir, au croisement justement de ce que Pierre Bourdieu appelle la noblesse d'État et le champ politique professionnel. Or, ne pensant pas du tout de cette dimension, dans une vision marxiste étriquée des choses, en très peu de temps, on a vu, sans même avoir le temps d'y penser, un PS qui votait majoritairement dans ses congrès, très majoritairement, des motions de rupture avec le capitalisme, et encore plus le CRS qui se voyait comme le pôle révolutionnaire de ce PS anticapitaliste, ont été rapidement ligotés par ces logiques de pouvoir, se sont institutionnalisés, les discours anticapitalistes ont été vite oubliés, jusqu'à ce que le PS soit même, historiquement, le premier agent du néolibéralisme en France. Non, c'est pas celle-là. Le néolibéralisme n'est pas venu par la droite, mais par la gauche. Bon. Alors que le PS tenait des discours beaucoup plus radicaux. Je me rappelle, on disait toujours, nous on est socialistes, on n'est pas sociodémocrates, les sociodémocrates c'est caca, c'est les Suédois, c'est les Allemands, etc., avec leurs réformes sociales, c'est vraiment la trahison, nous on est vraiment socialistes, c'est-à-dire nous on va mettre à bas le capitalisme. Bon. Finalement, au bout du compte, on n'a même pas fait la social-démocratie, on est passé directement à la casse néolibéralisme. Bon. Mais, à mon avis, c'est aussi une absence de maîtrise de ces problèmes, des mécanismes qui ont un rapport aux logiques technocratiques, à la professionnalisation politique, à la façon dont ça joue dans les rapports de pouvoir, qui était un des grands impensés, en tout cas, pour ceux qui, une partie de ceux qui militaient alors. On pourrait dire qu'une fois de plus, au cours d'une longue histoire qui, sur ce plan, tend à se répéter, ceux qui croyaient prendre le pouvoir pour changer la société ont été pris par le pouvoir, ont été transformés par ce pouvoir, et peu à peu ont oublié de changer la société, même de la réformer significativement dans un sens progressiste. Si on regarde aujourd'hui le reste de la gauche, pas simplement la gauche hollandaise, le front de gauche qui se présente comme une alternative à la gauche hollandaise n'a guère progressé sur ce terrain, en tout cas si on suit la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, qui demeure d'ailleurs un grand admirateur du politicien François Mitterrand. Il ne demande pas une occasion de le signaler. Et pourquoi avec un discours moins radical que le PS des années 70? Parce qu'il faut se rendre compte que le programme du Front de Gauche est moins à gauche que le programme du PS des années 70, hein, aujourd'hui. Pourquoi avec un discours moins radical, pourquoi ferait-on, dans des conditions assez similaires, sans que cette question des rapports de pouvoir soit traitée, plus confiance, hein. Le problème de la gauche de gauche, c'est un peu comme la gauche social-libérale, c'est que les bilans sont rarement faits et en général, les militants, c'est pas forcément les mêmes, parce qu'il y en a toujours des nouveaux, hein, les militants passent assez facilement d'un illusionnisme à un autre, bon, en fonction des périodes. Première expérience. Deuxième expérience qui est en fait un bon emboîtement, puisque en 1993-94, j'ai suivi Jean-Pierre Chevènement au mouvement des citoyens. Donc si on compte, disons, mon orbite CRS-MDC, j'ai passé un peu dans la même famille politique à peu près 19 ans. Bon. Bon, on me dit que je change souvent d'avis politique, mais bon, j'ai une certaine stabilité dans le changement. Bon. Le départ du PS initié par Jean-Pierre Chevènement avec la création du mouvement des citoyens en 1993 a acté à cette époque-là, dès 1993, donc l'impossibilité de faire revenir le PS en arrière sur son orientation sociale-libérale. Bon. Jusqu'à présent, avant cette période, nous pensions que ce qu'on appelait avant la parenthèse de 1983 pouvait être refermé. On disait la parenthèse avec l'idée que ça pouvait être refermé, mais en 93, 10 ans après, on a acté l'impossibilité de la refermer. Bon. Mais finalement, cet engagement au mouvement des citoyens m'a confronté à l'accentuation des problèmes vécus au PS, même si dans un cadre qui était cette fois hostile au néolibéralisme. Donc on avait le PS qui était devenu, disons, un agent du néolibéralisme, et le MDC était un cadre hostile au néolibéralisme, et la rupture avec le néolibéralisme n'est pas apparue suffisante pour prendre la mesure des logiques sociales institutionnelles qui ont mené au tournant néolibéral de 83. Au sens où toujours ces mécanismes à la fois de professionnalisation politique et technocratique n'ont pas du tout été traités, n'ont pas été réfléchis, et on est resté dans une logique où ça reste un impensé. Et l'appellation, qui était assez jolie, mouvement des citoyens, était alors illusoire, parce qu'il s'agissait, une fois de plus, non pas d'une politique à partir des citoyens, par le bas, mais d'une politique par les élites, par le haut. Bon. Aujourd'hui, si on prend encore, parce que ce n'est pas simplement le MDC ou c'est pas le Parti Socialiste, si on prend aujourd'hui encore l'expérience qui est celle du Front de Gauche, le couple constitué par le slogan « La Révolution Citoyenne », puisque c'est un des slogans, et la personnalisation autour de Jean-Luc Mélenchon ressemble assez à la configuration que j'ai connue au sein du mouvement des citoyens. Encore une fois, il me semble qu'on a guère avancé, on a même reculé, non pas par rapport au PS, au mouvement des citoyens, mais par rapport au mouvement altermondialiste qui a émergé, disons, à la fin des années 90. Puisque le mouvement altermondialiste, lui, portait une critique démocratique de la représentation politique et des logiques de délégation. Et par contre, dans la construction du Front de Gauche, cette critique de la délégation et de la représentation politique professionnalisée a été attendue à être oubliée. Troisième temps, là c'est un court passage, c'est sans doute ma plus grande erreur politique, c'est les Verts, 1994-1997 à Lyon. Alors j'avais rejoint le parti Les Verts pour deux raisons principales. La perspective de la politique autrement, avec l'idée de commencer à rompre avec, disons, mon insertion dans une politique trop exclusivement institutionnelle, et puis l'importance prise par les questions écologistes dans une transformation radicale de la société. Sur ce double plan, les Verts sont révélés assez défaillants, c'est-à-dire, au cours de ces 3 ans, je me suis rendu compte que c'était surtout la politique comme les autres, parfois pire, et l'écologie n'intéressait pas tellement les cadres dirigeants des Verts. Bon. Alors, sur le premier plan de la politique autrement, quand je suis arrivé en 1994, les logiques, disons, de carrière politicienne et les processus de monopolisation du pouvoir, ne citons qu'un nom ici à Lyon, Gilles Bunat, commençait à prendre le pas. Bon, il était déjà là. Ce qui a conduit à l'époque, presque dans les mois où je suis arrivé, à abandonner les dispositifs démocratiques internes qu'avaient constitué les Verts de manière innovante pour, disons, faire de la politique autrement, justement. Alors c'était les principes des coélus, hein, pour les régionales notamment, parce qu'il y avait plus d'élus chez les Verts. Il y avait toujours deux personnes qui se suivaient autour d'un mandat, et puis le tourniquet, puisque au bout d'un an, on devait laisser sa place à d'autres élus sur une liste. Bon. Alors, c'était très intéressant. Bon, les Verts se sont aperçus que les appétits individuels étaient trop forts. Et par exemple, ici dans le Rhône, dans la région, plus de la moitié des élus verts quittaient les Verts au moment de laisser leur mandat aux autres. Bon. Et donc les Verts ont arrêté la casse de perdre tous leurs élus qui ne voulaient pas faire le tourniquet et qui quittaient le parti pour rester élus mais en dehors du parti. Bon. Mais donc finalement, on a fini par adapter les statuts à la situation et à faire comme les autres. Bon. Cette expérience m'a montré que le slogan « La politique autrement » peut être justement qu'un slogan marketing. Et même, on pourrait dire que la politique autrement, c'est un nouveau chemin détourné pour occuper comme avant les positions, les pouvoirs. On a connu ça avec Arnaud Montebourg et sa 6e République. Hein. Rappelez-vous, il a fait toute sa carrière sur la 6e République et sur le refus, le mandat unique. Et puis, dès qu'il y a eu l'occasion, il a accumulé hein, le mandat de président de conseil général de Saône-et-Loire et de député. Bon. Et maintenant, je pense que c'est des choses assez comparables avec la révolution citoyenne de Mélenchon. Bon. Ou alors, pensons à Daniel Cohn-Bendit, qui finalement, depuis plus de 30 ans, est un professionnel de la politique et qui apparaît aux yeux de l'opinion comme quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la politique. C'est très étonnant. Bon. Ça nous incite à ne pas nous contenter trop facilement des slogans, des déclarations lors des campagnes électorales ou des motions votées sur les congrès, sur la politique autrement. Et sur le second plan des questions écologistes, je me suis aperçu que les Verts français, qui étaient très marqués par cette institutionnalisation politicienne, ne se préoccupaient pas tant que ça, finalement, des problèmes écologistes et que s'intéressaient peu à leur réflexion intellectuelle autour des problèmes écologiques. Je me rappelle que je m'étais mis à m'intéresser à la philosophie politique écologiste autour des thèses de Hans Jonas et je peux vous dire que les hauts dirigeants des Verts, notamment la principale à l'époque qui était Dominique Voynet, vraiment n'y s'y intéressaient très peu. Bon, les problèmes principaux étaient toujours autour de la répartition des pouvoirs, avec quelque chose de plus problématique encore qu'au PS, puisqu'au PS il y a beaucoup de monde, on donne du temps au temps, comme disait Mitterrand. Donc pour faire une carrière d'élu, il faut du temps, il faut y passer, etc. Il y a des courants, il y a une certaine stabilité. Tandis que chez les Verts, c'est les appétits individuels de carrière qui s'expriment sans médiation, sans temporalité, comme ça. Bon. Et alors, c'est beaucoup plus terrifiant, en fait. Donc après cette expérience, disons, à l'enquête d'une politique autrement qui n'était pas autrement, écologiste qui n'était pas écologiste, j'ai quitté les Verts avec quelques amis en 1997, au moment de l'entrée des Verts au gouvernement Jospin, puisque je participais à un courant chez les Verts qui était aussi la participation à ce gouvernement. Et avec ces gens qui sont partis, nous avons créé un petit réseau un peu provocateur qui s'appelait CELS, ça voulait dire sensibilité écologiste, libertaire et radicalement social-démocrate. Alors, ce réseau CELS s'est rapproché de la LCR, qui était, elle, de culture principalement trotskiste, Ligue communiste révolutionnaire à l'époque. D'abord dans une alliance expérimentale au début 1998, puis après en y adhérant directement en 1999. Hein. Et disons, je suis resté 10 ans à la LCR, et si on compte l'expérimentation CELS-LCR, 11 ans. Pourquoi la LCR s'est forcée de se transformer à l'époque dans quelque chose de plus large hein. C'était le thème. Et deux figures importantes appuyaient pour nous cette démarche. Daniel Ben Saïd, qui était le tenant d'une réélaboration intellectuelle à partir d'un marxisme ouvert. Et puis Christophe Aguiton, qui était un syndicaliste sud-PTT, co-animateur du mouvement des chômeurs, cofondateur d'Attaque France, et qui marquait les liens forts à l'époque entre une certaine renaissance des mouvements sociaux dans les années 90 et les militants de la LCR. Et C'est d'ailleurs les aspects les plus positifs de cette expérience militante qui me conduisent aujourd'hui à retenir justement deux axes importants pour la gauche aujourd'hui. Le lien étroit avec le travail intellectuel, dans le dialogue continu entre milieu critique, intellectuel, professionnel, militant, etc. Et puis, l'importance des interactions quotidiennes entre mouvements sociaux et la politique organisée. Bon. Toutefois, il y a une faiblesse ici, bon, qui a conduit à un dépassement, mais qui était présente, c'est que, de culture léniniste-trotskiste, même rénovée et ouverte, la SR n'avait pas tout à fait rompu avec ce que j'appelle la politique tutélaire, la conception tutélaire de l'émancipation, tutélaire de tutelle. C'est-à-dire pour laquelle le militant révolutionnaire demeure d'une certaine façon en position de tutelle par rapport à la conscientisation et à l'émancipation des opprimés. C'est la tentation à gauche, qui est assez large, dont j'en reparlerai à la fin, qui est de remplacer le verbe pronominal « s'émanciper » au sens de l'auto-émancipation des opprimés, par le verbe transitif « émanciper » comme on émancipe les esclaves. Donc on va émanciper les gens qui sont aliénés, opprimés, mais sont des tutelles qui vont les émanciper de l'extérieur. La culture léniniste-trotskiste de la LCR ne permettait pas complètement de rompre avec cette conception tutélaire de l'émancipation. Dernière expérience, mais comme le MDC, là, dans le prolongement de l'expérience LCR, c'est le nouveau parti anticapitaliste, hein, 2009-2013, 4 ans, et si je garde, disons, l'orbite LCR-NPA, ça fait à peu près 15 ans dans la même orbite. Hein. La LCR a donc décidé de se transformer en un parti plus large et pluraliste que la culture trotskiste, en jouant sur la popularité d'Olivier Besancenot, son candidat à la présidentielle, création du NPA, qui était une aventure prometteuse au départ, qui a fini par se marginaliser. Un peu moins de 10 000 membres au départ, aujourd'hui un peu plus de 2 000 membres. Donc perte de 8 000 membres sur 4 ans. La plupart des milliers de démissionnaires d'ailleurs sont partis dans la nature. Il y a à peine quelques centaines qui ont rejoint le front de gauche. La plupart sont dans la nature sans être nulle part. Pour différentes raisons, sans doute d'abord les points forts de la LCR, avec une organisation beaucoup plus petite que j'ai signalé, le rapport au travail intellectuel et les relations avec les mouvements sociaux se sont affaiblis dans le NPA. Donc, peu à peu, le NPA est apparu sur ce plan en deçà de la LCR. Par ailleurs, le NPA n'a pas été très nouveau sur le plan, on peut dire, des modes d'organisation, des formes d'activité militante, du langage politique, de ce qu'on appelle les pratiques politiques. Et dès le départ du NPA, les militants, d'ailleurs de la base au sommet, ont été marqués par un fort déficit d'expérimentation, on peut dire, de nouvelles pratiques. Et on se s'est calé à la fois sur les routines organisationnelles et le vieux langage politique classique. Avec aussi toujours donc la vieille prétention tutélaire, hein, la prétention d'émanciper les autres. Soit cette prétention tutélaire a une variante électoraliste, on va émanciper les autres par les élections, soit elle a une logique avant-gardiste, c'est-à-dire c'est une avant-garde révolutionnaire qui va émanciper les autres, mais en fait c'est deux phases d'une même conception tutélaire de la politique. Alors, ici, il faut éviter la vision basiste. Pourquoi ? Parce que les sommets de l'organisation du NPA n'ont jamais empêché que les secteurs locaux, qui étaient extrêmement libres, expérimentent. Et pourtant, les secteurs locaux n'ont pas expérimenté, largement. Et donc, ça nous conduit à écarter un peu des lectures basistes qui sont assez courantes, hein, la méchante direction qui imposerait la méchante orientation à la gentille base. Bon, ici, la base n'a pas beaucoup été plus expérimentale que le sommet. Bon. Alors, le NPA est ce faisant passé largement à côté de deux défis associés de la période, à mon avis, qui sont emboîtés. Comment élaborer une politique radicale, rénovée, avec les opprimés eux-mêmes, et non à la place ou devant les opprimés. Alors, quand je dis avec, c'est ça la difficulté, hein, parce que c'est pas simple. Hein. C'est pas du tout simple. Si sans arrêt ça échoue, c'est que c'est pas simple. Hein. C'est pas simplement de la mauvaise volonté. Parce que l'émancipation ne peut pas se passer de minorités actives, ce que les syndicalistes révolutionnaires de la fin du 19e, du début du 20e siècle appelaient les minorités agissantes. Bon. il y a des, donc des militants, alors associatifs, syndicaux, politiques, etc. Donc il y a des minorités actives, et comment faire un lien entre ces minorités actives et une auto-émancipation de la majorité, des opprimés, qui ne se substitue pas à cette auto-émancipation. Bon. C'est là où l'expression « avec » est importante, mais elle n'est pas simple, en fait, l'avec. Hein. Parce qu'il y a bien des minorités actives et il y a le problème de l'auto-émancipation. Bon, en général, c'est simple, subrepticement, on se réclame toujours de l'auto-émancipation, mais on passe du côté de l'émancipation au sens dont on émancipe les esclaves. Deuxième défi, comment élaborer une politique radicale rénovée ? Et c'est en lien avec le premier point, à partir de la vie quotidienne. Or, souvent, les politiques radicales vont en quelque sorte assommer les vécus ordinaires par des abstractions politiques venant d'en haut, en essayant de faire rentrer dans les cases qui sont déjà préétablies, avec des analyses, soit marxistes, soit autres, hein, etc. On va les faire rentrer, au lieu de partir du rapport à la vie ordinaire, à la vie quotidienne. Et donc le défi d'une politique à partir de la vie quotidienne est toujours un vrai problème. Bon. Donc une politique avec les opprimés à partir de la vie quotidienne, voilà deux défis que n'ont pas permis de remplir le NPA, mais à ma connaissance, les autres expériences existantes. Alors, mon expérience depuis le mois de février, donc depuis quelques mois, la Fédération anarchiste est trop courte pour que je puisse en dire quelque chose de suffisamment construit. Mais si on met en rapport les différentes expériences que je viens de traverser, hein, PS, MDC, VER, LCR, NPA, on peut aussi saisir deux familles de problèmes associés qui sont transversaux par rapport à toutes ces organisations et ces expériences assez différentes. Première tendance transversale, c'est la prégnance assez généralisée du rapport tutélaire à la politique. En termes de tutelle, c'est-à-dire où le s'émanciper est subrepticement remplacé par l'émanciper. Et donc, en fait, où l'auto-émancipation est pratiquement abandonnée, même si on la revendique. Cela peut prendre des formes dominantes dans la politique à gauche aujourd'hui, PS, VR, Front de Gauche, de la représentation politique professionnalisée, de l'électoralisme, c'est une variante, c'est la plus forte, disons. Et ça peut prendre les résidus d'une politique avant-gardiste dite révolutionnaire à l'extrême gauche, hein, beaucoup plus faible, moins présente. Deuxième tendance transversale, la prégnance dans les milieux militants de gauche d'un rapport fortement identitaire et non pragmatique à l'action politique, qu'il s'agisse du PS ou des gauches radicales. Qu'est-ce que j'allais dire, rapport fortement identitaire et pas non pragmatique ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas avant tout d'avoir des effets sur la réalité, mais de cultiver et de stabiliser une identité politique personnelle, puisant dans une identité collective. Par exemple, l'important, c'est que moi, je suis de gauche par rapport à mon voisin qui est de droite. Bon. Ou c'est l'important que je sois antilibéral par rapport aux sociaux-libéraux. Ou l'important, c'est que je sois révolutionnaire par rapport aux autres qui sont réformistes, bon, etc., etc. Cette logique principalement identitaire est largement souvent implicite et non consciente, mais on se soucie peu des effets pratiques de son action et de l'action de son parti sur la réalité. Pas plus d'ailleurs les militants du PS que les militants du NPA ou du Front de Gauche. Et en particulier, si on s'intéresse à l'émancipation, puisque c'est le terme, disons, qui a marqué, disons, la perspective historique de la gauche, si on s'intéresse aux effets émancipateurs, individuels et collectifs de son action. On peut certes recourir à des discours pragmatiques, hein, comme on dit, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme le fait par exemple le Parti Socialiste, mais sans prendre vraiment au sérieux pratiquement le pragmatisme. C'est-à-dire, quels effets pratiques ça a ? Alors, au sein des cercles dirigeants des gauches institutionnelles, une composante carriériste prend de la place par rapport à la logique identitaire, mais en général, la composante carriériste, il ne faut pas croire qu'elle élimine complètement la logique identitaire. C'est-à-dire que ce que j'ai observé dans mon parcours politique, c'est qu'il est très difficile de vivre son rapport à la politique uniquement sur un mode cynique. Et donc, en même temps, il faut se raconter des histoires, et donc on a besoin de l'identité. Autrement, c'est malaisé à vivre psychologiquement. Et donc, on a souvent la figure de l'homme de carrière politique qui est cynique. C'est très difficile de le vivre en cynisme. C'est un point amusant et faible du personnage que joue Kevin Spacey dans la nouvelle série que vous regardez peut-être, House of Cards, qui est une série qu'on peut télécharger illégalement et qui se passe, disons, autour du rapport entre la chambre américaine et la Maison Blanche. Bon, il y a des rapports entre... Bon, il y a un personnage principal joué par Kevin Spacey qui est particulièrement dans cette logique extrêmement cynique, de maîtrise complètement cynique de tout. Bon. Mais disons que ce rapport uniquement cynique à la politique est assez rare et assez malaisé à vivre, disons, psychologiquement sur un temps long. Par contre, la composante identitaire souvent apparaît dominante chez les militants. Bon. Alors, on peut difficilement militer sans prendre appui sur des repères identitaires. Les repères identitaires, c'est une des dimensions du militantisme, puisque ça contribue à donner sens à sa vie. Mais le problème ici, d'ailleurs, de la gauche modérée jusqu'à aux gauches radicales, c'est quand cette dimension identitaire apparaît, on peut dire, trop hégémonique, et vient empêcher l'interrogation pragmatique sur les effets de son action et sur la réalité. Et donc, quand on va parler des effets de son action sur la réalité, ça va être sur le mode auto-justification, c'est-à-dire de justification de son identité, mais pas en s'interrogeant vraiment sur quels effets. Voilà ce deuxième pan que je voulais aborder, compléter par rapport au constat général de désintellectualisation dans les gauches, et après, disons ces éléments complémentaires par rapport à mon propre retour autobiographique sur mes expériences militante depuis presque 40 ans. Alors, que dire en conclusion, conclusion de ce périple de ces trois séances sur les crises intellectuelles, morales et politiques à gauche? J'ai une piste sous la forme d'une notion, c'est une des pistes possibles. Il me semble que la relance de l'aventure intellectuelle à gauche, de la gauche modérée, d'ailleurs mon propos s'adresse aussi bien à la gauche modérée qu'aux gauches radicales, hein, il y a différentes variantes de ce point de vue. La relance de l'aventure intellectuelle à gauche ne peut pas constituer un voyage solitaire. Bon. Et donc, il me semble qu'il faut abandonner l'idée que la solution viendra du grand penseur qui va nous sauver. Bon. Ça, c'est une attente qu'on rencontre... qui peut être une mégalomanie dans certains milieux intellectuels, mais qui peut être une attente dans les milieux militants ou les militants de gauche. Hein, et on cherche le grand penseur, on est déçu, on en trouve un autre, on en trouve un autre. C'est comme les candidats au présidentiel, le grand penseur, on saute de l'un à l'autre. Bon. Donc la figure titanesque du grand penseur, dont on attend tout, ne correspond pas, à mon avis, au défi de l'intelligence démocratique aujourd'hui. Hein. Un de ceux qui, d'ailleurs, parce qu'il est venu dans ces murs, qui exhibe le plus aujourd'hui de manière involontairement comique les oripeaux du grand penseur, c'est Alain Badiou, justement, dans une variante mao-platonicienne. Alors, il existe bien quelques grands penseurs, hein, je ne parle pas d'Alain Badiou, fournissant un carburant intellectuel pour la pensée. Et puis il y a toute une série de productions beaucoup plus modestes, on pourrait dire artisanales, dans les milieux intellectuels professionnalisés. Moi je me situe plutôt dans les milieux artisanaux du travail intellectuel. Il y a ces ressources, mais une ère qui souhaiterait voir s'épanouir de manière plus effective une promesse démocratique ne peut pas s'en rester aux producteurs professionnels de l'activité intellectuelle. Et donc, pour moi, l'avenir intellectuel des gauches se joue plutôt dans un espace davantage pluriel et interactif, et qui nous oblige, les défaillances politico-intellectuelles des gauches nous obligent à réinventer ce que j'appelle une intellectualité démocratique. Intellectualité démocratique, qu'est-ce que ça veut dire? Cette notion d'intellectualité démocratique vise un espace pluriel de dialogue, de coopération, mais aussi de tension, de confrontation, entre des mouvements sociaux, des praticiens d'expérimentation alternative, des organisations politiques, des intellectuels professionnels, des artistes, des journalistes indépendants, des citoyens ordinaires. Donc un espace entre ces différents acteurs de confrontation, de tension, de coopération, de dialogue, dans la perspective de la production d'idées renouvelées à gauche. Ce qui suppose d'assumer le caractère hybride de cet espace entre une logique démocratique et une logique de compétence. Ça, c'est une grande difficulté à accepter. La logique de production des idées n'est pas exactement la logique de la démocratie. Et donc, dans la logique de production des idées, il y a une sorte de métissage impur entre une logique démocratique et une logique de compétence. Qu'est-ce que ça veut dire ? La logique démocratique, c'est celle du débat politique démocratique, proprement dit, et de la décision démocratique. Elle est basée sur la présupposition idéale qu'a bien formulée le philosophe Jacques Rancière de l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Il y a une égalité de n'importe qui avec n'importe qui. La parole de n'importe qui vaut la parole de n'importe qui. La voix de n'importe qui vaut la voix de n'importe qui. Ça, c'est la présupposition, disons, égalitaire de la logique démocratique, du débat démocratique et de la décision démocratique. Mais la logique de la production intellectuelle, elle se situe au carrefour de cette logique démocratique et d'une autre logique qui est une logique de compétence. Logique de compétence est celle qui se déploie sous des formes différentes, en philosophie, dans les sciences, que ce soit les sciences dures ou les sciences sociales, dans le journalisme, dans l'art, qui fait que, a priori, on ne peut pas dire, a priori, que chaque voix compte exactement la même chose. Par exemple, dans la production des idées, Bernard-Henri Lévy ne vaut pas Pierre Bourdieu. Et le problème. Et évidemment, dans notre logique démocratique, on a du mal à l'admettre. C'est-à-dire qu'on, à la fois, on comprend qu'il faut dire que c'est mal Bernard-Henri Lévy, mais en même temps, on a du mal à admettre que cet espace de production des idées, il soit un espace hybride entre une logique démocratique égalitaire et une logique de compétence, donc qui a une dimension hiérarchique. Il y a des compétences, hein, c'est pas les mêmes, il y en a une diversité. Et donc l'intellectualité, c'est ce qu'a bien mis en évidence dans les champs culturels l'analyse de Pierre Bourdieu, qui avait des logiques aussi de compétences. L'intellectualité démocratique, donc, suppose la création d'espaces, selon la formule que j'aime bien, que j'utilise souvent maintenant, de Pierre-Joseph Proudhon, d'équilibration des contraires. D'équilibration des contraires et de métissage entre ces deux logiques, logique démocratique, logique de compétences, et entre une diversité d'acteurs. De la gauche modérée aux gauches radicales, de multiples initiatives sont souhaitables sur ce plan. Alors, pour ma part, j'ai participé récemment, mais c'est un exemple pour montrer que j'essaie de tenir compte de l'analyse des différents échecs que j'ai pu vivre en tant que militant, en essayant de rebondir. J'ai participé récemment, mais il peut y avoir des tas d'autres initiatives de ce type. Il y a quelques jours, à une initiative dans la galaxie anarchiste, hein, c'est ce qu'on appelle le groupe et le séminaire Étape. Étape, ça veut dire exploration théorique anarchiste pragmatiste pour l'émancipation, qui est associé à un nouveau site libertaire qui s'appelle Grand Angle, et qui est un lieu qui réunit des intellectuels professionnels, des artistes et des militants de différentes obédiences, qui s'intéressent aux idées libertaires, mais il y en a qui peuvent être militants du NPA qui s'intéressent aux idées libertaires. Il y a même une militante de lutte ouvrière, et il y a même des militants du Front de Gauche. Bon. Donc, voilà. Et l'idée, c'est, à partir de ce petit espace, de produire, dans la logique de l'intellectuel démocratique, des idées renouvelées. Bon. Avec l'idée, donc, que les idées politiques renouvelées ne vont pas venir des grands penseurs ou simplement des milieux intellectuels professionnels, mais de ce travail d'élaboration spécifique dans un espace propre. Bon. Alors, les analyses que j'ai présentées lors de ces trois séances appellent également la stabilisation d'un certain rapport au monde, ce qu'on peut appeler une éthique, notamment pour faire face, justement, à deux choses, à la répétition des désenchantements, bon, et au nécessaire décryptage des enjeux contemporains, enfin, en tout cas, importants du moment. Alors, chez moi, et je terminerai là-dessus, ça prend le sens d'une double éthique emboîtée ou d'une double éthique associée. Premièrement, c'est ce que j'appelle une éthique de la mélancolie joyeuse. C'est quelque chose qui se situe dans des choses que j'ai dites la semaine dernière autour de Walter Benjamin et de Daniel Ben Said. C'est une éthique de la mélancolie joyeuse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'oublie pas les échecs, les impasses, les écueils, au niveau personnel d'ailleurs que collectif. Il n'y a pas qu'au niveau collectif qu'il y a des désenchantements. On a l'impression, quand les gens parlent de la politique, que c'est terrifiant, etc., comme s'ils ne regardaient pas leurs expériences personnelles, qui sont bien tristes souvent aussi. Donc, qui n'oublie pas les échecs, les impasses, les écueils, mais qui se coltine aussi les antinomies, les tensions indépassables de la condition socio-historique de l'humanité, mais en en faisant un motif supplémentaire de redéploiement joyeux à la fois de la pratique émancipatrice et de la connaissance critique sur de nouveaux terrains, hein, comme une façon de rebondir. Deuxième éthique associée, cette fois-ci j'appelle une éthique de la curiosité, je l'emprunte à des pistes formulées par Michel Foucault dans un entretien, uniquement dans cet entretien, publié en avril 80 sous le titre « Philosophe masqué ». Qu'est-ce que Foucault appelait curiosité? Je cite « Le soin qu'on prend de ce qui existe et pourrait exister, le soin qu'on prend de ce qui existe et pourrait exister, un sens aiguisé du réel mais qui ne s'immobilise jamais devant lui, un sens aiguisé du réel mais qui ne s'immobilise jamais devant lui. » On en a bien besoin dans les gauches, hein, à la fois de prendre au sérieux le réel et en même temps de ne pas le considérer comme une fatalité. Bon. Une promptitude à trouver étrange et singulier ce qui nous entoure, évidemment par rapport à la déploration de la pensée monde diplo, c'est intéressant. Une promptitude à trouver étrange et singulier ce qui nous entoure, un certain acharnement à nous défaire de nos familiarités et à regarder autrement les mêmes choses. Bon. Il me semble que justement, la stabilisation d'une éthique de la mélancolie joyeuse et d'une éthique de la curiosité nous permettrait de rebondir à la fois face, aux expériences de désenchantement et face, disons, à la nécessité de décrypter les enjeux, disons, politiques et intellectuels du moment. Voilà ce que je voulais dire lors de ces trois séances, et puis donc on va pouvoir passer aux questions, aux débats et aux objections éventuelles.